Et on pourrait dire que notre liberté va être à la mesure de notre obéissance. C'est très simple comme principe. Alors bien sûr que ça nous choque un petit peu, esclave de Jésus-Christ, oui, esclave de Jésus-Christ. Plus mon obéissance à Christ va être élevée, plus ma liberté en Christ sera élevée. Et ainsi, parfois, eh bien, on se conditionne nous-mêmes, on se freine nous-mêmes parce que notre obéissance n'est pas encore totale ou à la mesure de la liberté à laquelle on aspire. En tout cas, ce matin, eh bien, que Dieu soit remercié pour ce changement de condition. Que Dieu soit remercié ce matin pour la liberté qu'il nous donne de lui obéir. Que Dieu soit remercié ce matin pour cette obéissance qui nous conduit dans cette liberté. Et les deux sont intimement liés, même si pour moi, d'une manière charnelle, je ne vois pas du tout le lien entre l'obéissance et la liberté. Eh bien, c'est un lien qui est extraordinaire, qui se manifeste au travers de Jésus. Et oui, ce matin, nous voulons dire, Seigneur, que tu sois remercié. Que Dieu soit remercié pour ce changement de condition. Désormais, nous avons la liberté glorieuse d'obéir à Jésus-Christ. Et plus je lui obéis, plus je suis libre, plus je suis affranchi. Et plus je suis affranchi, bien, plus cette obéissance, j'allais dire, grandit. C'est un cercle vertueux, c'est un cercle spirituel qui me fait ainsi monter dans sa présence et qui m'élève dans la présence de Jésus. L'obéissance, nous le savons, n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. Hein, qu'on soit adulte, qu'on soit ado, qu'on soit enfant, l'obéissance n'est pas naturelle. Mais, elle nous conduit de manière spirituelle dans la liberté glorieuse de Jésus-Christ. Alors oui, nous voulons proclamer ce matin, de tout notre cœur, que Dieu soit remercié. Amen. Que Dieu soit remercié, parce que désormais nous sommes devenus, oui, des esclaves de Jésus-Christ, des esclaves de sa justice, par notre obéissance qui nous conduit dans cette grande liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et je le dis et je le répète souvent, c'est que la plus grande liberté désormais que Christ nous donne, c'est de pouvoir dire non. Non au péché, non aux passions, non à ce qui cherche à nous détruire, non à ce qui nous avilit. Ça, c'est la plus grande liberté. Nous pouvons dire non désormais. Parce que la grâce de Dieu est avec nous et sur nous, parce que la bonne main du Seigneur est sur nous. Amen. 1 Corinthiens 15, 54. Il y a en principe 5 expressions que Paul emploie avec cette belle réalité que Dieu soit remercié. 1 Corinthiens 15, 54. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entendu parler ce matin de victoire hein, au quotidien. Et ici, eh bien, il y a cette réalité où Paul dit que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est le contexte de cette victoire? Eh bien ici, Paul nous rappelle que c'est la victoire sur la mort éternelle. C'est la victoire sur la perdition éternelle. C'est la victoire sur l'enfer. Et ça, c'est la victoire suprême. Pour laquelle chacun d'entre nous, bien, nous remercions Dieu, oui, chaque jour, chaque instant de nos vies. Notre condition de perdition éternelle, eh bien, elle est même incomparable avec tout ce qu'on peut imaginer. On peut avoir une idée de ce qu'est l'enfer, de ce qu'est la vie loin de Dieu, mais c'est malheureusement encore bien en deçà de la réalité. Quand on relit dans Apocalypse 20, par exemple, chapitre donc 20, et puis le verset 10 à 15, juste quand même, ce sont des mots, des expressions qui nous interpellent. Il est question de l'étang de feu, il est question de la mort, du séjour des morts, il est question de la seconde mort. Et puis au chapitre 21, verset 8, hein, il est question là aussi eh bien, de Satan aussi, et puis de tout cet étang de feu, de soufre, qui est la seconde mort. Et nous avons ici désormais une réalité glorieuse et on n'en mesure pas encore toute cette réalité. Eh bien, désormais, que Dieu soit remercié. Il nous a donné, il nous donne la victoire sur la mort éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et là, Paul associe, et notre frère Rouben nous le rappelait hein, avec son expérience, de ce corps qui est corruptible, de ce corps qui est mortel, qui va devenir immortel, qui va devenir incorruptible. Et il associe à cette victoire eh bien, un événement glorieux, unique dans l'histoire de l'humanité, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Jésus revient bientôt nous chercher. Et là, bien, Paul explique rapidement, hein, mais Thessaloniciens aussi nous le rappellent, lorsque Jésus va revenir sur les nuées du ciel, eh bien, il y a un événement qui va se produire. Alors ceux qui sont vivants à ce moment-là, que va-t-il se passer pour eux? Vous en rappelez? Ils vont être transformés, mais la Bible nous dit en un clin d'œil, littéralement en un battement de cils. Ce corps-là, avec nos stènes pour certains, avec nos lunettes pour d'autres, avec nos vis dans les chevilles pour d'autres, etc., c'est fini. Vous vous rendez compte quand même, hein, Jeanne, hein, plus de problème de cheville. Hein. Et pour les autres, plus de diabète, etc. En un clin d'œil, en un battement de cils, on va être transformé comme le corps de Jésus. Voilà. Et puis, en même temps, tous ceux qui sont morts en Jésus avant nous, ils vont ressusciter. Vous vous rendez compte ce qui va se passer dans les cimetières? Oui. Nous, on sera partis, mais ça va être quand même un drôle branle-bas de combat. Hein. Et puis d'autres, mais enfin, simplement. Hein. Et tous ensemble, on va partir avec ce corps glorieux. Eh bien, comme celui de Jésus, on va partir à sa rencontre sur les nuées du ciel. Que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié. Je partage toujours parce que c'est une parole d'un enfant qui... On parlait justement avec nos enfants, alors à table, du retour de Jésus, voilà. Et puis, ils avaient quoi, je ne sais pas moi, 4, 6, 8 hein, peut-être. Et on parlait du retour de Jésus, voilà. Et les enfants avaient bien compris. Sauf que notre fille, je crois, me dit, il me regarde, il me dit, toi, pas, hein, notre fille, il me dit, mais toi, tu auras du mal, papa, parce que tu es un petit peu trop gros pour partir, hein. Moi, je t'inquiète pas, c'est pas une question de poids. C'est plutôt le péché qui pourrait nous retenir, mais le poids, ça ira. Le Seigneur s'en occupera. Le corps va être transformé. Alléluia. Amen. Il va être transformé. Et ici, bien, Paul parle de cet événement extraordinaire qui va bouleverser la terre entière, hein, parce qu'après, il va y avoir là aussi, bien, dans les médias, enfin, des choses qui vont inonder la surface de la terre pendant des jours et des jours. Hein. Tout le monde va en parler, je veux dire, des millions de personnes en un instant, bien. Vont disparaître, des collègues de travail, on les attend, ils ne viennent pas, des chauffeurs de bus, etc. Enfin, je veux dire, ça va être un bouleversement mondial. Mais la Bible nous parle, eh bien, que parce qu'un jour, Christ nous a accordé sa victoire, désormais, que Dieu soit remercié pour la victoire sur la mort éternelle, pour la victoire sur l'enfer, sur la perdition éternelle, Jésus revient bientôt nous chercher. Amen. Et nous qui sommes vivants à son retour, et ça, c'est l'espérance de chaque génération. Ça, moi, c'est mon espérance, la vôtre certainement aussi. Eh bien, en un battement de cils, en un clin d'œil, on sera transformé. Il me semble qu'il y a une émission hein, qui parle de transformation. On transforme les looks hein, des messieurs, des dames, etc. Avant, après, et souvent on fait « Waouh !» quelle transformation mais là, ce ne sera même pas « Waouh !» parce que hop, on sera déjà avec le Seigneur et puis on pourra le bénir et le glorifier dans l'éternité. Amen. Oui, que Dieu soit remercié. Hein, parce qu'il nous donne cette victoire en Jésus. 2 Corinthiens 2,14, un autre sujet de remerciement ce matin, ensemble, pour bénir le Seigneur. 2 Corinthiens 2,14 nous dit ceci. 2 Corinthiens 2,14. Alors, on en a parlé un petit peu, mais on va faire un résumé, mais c'est important de le rappeler ce matin. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà, on vient d'en parler aussi avec hein, cette réalité glorieuse. Et puis, deuxième sujet de remerciement, et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Hein, cette bonne odeur, on en a parlé aussi, bien sûr, mardi. Mais on pourrait dire ce matin, bien, c'est le parfum de triomphe. C'est le parfum du triomphe de Christ, c'est le parfum de la connaissance de Jésus-Christ. Et je rappelais mardi, ce parfum, il est unique, il est destiné seulement aux croyants. Vous savez que ce matin, vous qui connaissez Jésus-Christ, vous portez un parfum qui est unique, qui a un prix inestimable, que personne ne peut se payer, que personne ne peut offrir, parce que c'est un parfum qui est inestimable. Il n'a que le coût du prix de la vie de Jésus-Christ. Mais c'est un parfum qui est destiné uniquement aux enfants de Dieu. Personne d'autre ne peut le porter. Il n'y a que Dieu qui l'accorde, qui l'offre. Il n'y a que Dieu qui parfume ses enfants de ce parfum. Le parfum du triomphe. Alors je ne sais pas s'il existe un parfum nommé triomphe, ça j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est celui que nous portons ce matin. Et il se dégage comme une bonne odeur dans la présence de Dieu. Il se répand dans l'Église, il se répand également dans ce monde parce que c'est un parfum de bonne qualité. Je rappelais ce mardi, quand j'étais un peu plus jeune, donc j'avais 12-15 ans, je ne sais pas si ça existe toujours, le patchouli. Je ne sais pas si vous connaissez le patchouli. Non, ça ne vous dit plus rien. Hein. Si, hein, c'est un, alors c'est un parfum très très bon marché. Hein, que les filles se remettaient encore quand j'avais 12-13 ans pour essayer d'attirer les garçons. Voilà. Le problème, c'est que comme c'était un parfum quand même qui n'était pas de très bonne qualité, au fur et à mesure, il se dégradait. Et à la fin de la journée en classe, ce n'était pas une bonne odeur qui se répandait. C'était plutôt une odeur qui répulsait tout le monde et ça faisait l'effet contraire. Bien. Mais ça, ce n'est pas le parfum de Dieu. Ce n'est pas le parfum de Dieu, hein. Ce matin, bien, nous avons ce bon parfum sur nous. Oui, c'est un parfum d'éternité, un parfum d'éternité. Là encore, ce témoignage d'une sœur donc sur Saint-Dié, Madame Orignet, c'était certainement une Espagnole. Et je ne sais pas si cette expérience elle a vécue alors qu'elle connaissait Jésus ou pas, je ne sais pas. Mais je dis souvent, comme ça en plaisantant, cette sœur, elle est morte deux fois. Elle est morte une première fois à l'hôpital dans les années 50. Et elle s'est retrouvée donc à la morgue de l'hôpital de Saint-Dié, c'était au moins 3, au moins 4, voilà, dans les tiroirs comme ça, bien, bien laqués, vous savez, donc en métal, dans une atmosphère assez froide, et puis une odeur de mort. Mais ce qu'elle se souvient lorsque elle est apparue, je ne sais pas comment ça s'est passé, elle se souvient d'un cri, c'est le cri de l'infirmière qui était là de garde. Quand elle a vu un tiroir comme ça se pousser, puis quelqu'un sortir du tiroir, ça a été le cri, bien sûr. Alors nous on en sourit, bien sûr, hein. Nous on est bien, mais imaginez-vous la pièce de cette infirmière dans les années 1950 dans une morgue, hein, avec des tiroirs partout, il y en a un qui s'ouvre et quelqu'un qui sort. Elle a crié, moi j'aurais crié aussi. Donc elle a crié, voilà. Elle était chercher tout le corps médical qui sont descendus, et là, en entrant dans cette morgue au sous-sol, il y avait un parfum. Un parfum de vie, un parfum de la vie éternelle, un parfum de la grâce de Dieu qui était répandu dans cette morgue. C'est extraordinaire. Hein, et à chaque fois, bien sûr, qu'elle racontait son témoignage, nous on bénissait Dieu, que Dieu soit remercié pour le parfum, pour le parfum. On se souvient de Marie dans Jean 12, hein, qui va répandre un parfum. Et ça, c'est un parfum de triomphe sur les pieds de Jésus. Il remplit toute la pièce. C'est le triomphe, par exemple, sur l'hypocrisie. C'est le triomphe sur la cupidité. C'est le triomphe sur les préjugés. C'est le triomphe sur la religiosité, et on pourrait ajouter. Et là, bien, Marie va répandre ce parfum. Que Dieu soit remercié. Frères et sœurs, vous êtes un parfumé du Seigneur, un oint du Seigneur ce matin, et la bonne odeur de Jésus-Christ fait partie désormais de notre vie. Allez, encore deux, et puis on termine. 2 Corinthiens 8, versets 16 à 17. Encore une raison supplémentaire d'exprimer notre remerciement ce matin, 2 Corinthiens 8, 16. Que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande, et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Ici, Paul parle du zèle que Tite manifeste envers donc, l'Église. Il est question ici d'une collecte générale de toutes les églises pour aider donc des frères et sœurs qui sont en difficulté. Et pour faire cette collecte, eh bien, on va déléguer une équipe missionnaire. À l'époque, on n'a pas la carte bancaire. Il faut transporter l'argent. Et c'est quand même une responsabilité aussi, hein, parce qu'il y a les brigands, parce que les chemins sont mal famés, etc. Parce qu'avec cet argent, bien, on peut là aussi avoir parfois quelques surprises. Et donc, on va dévouer une équipe missionnaire, et Tite en fait partie. Et ici, Paul, eh bien, exprime sa reconnaissance à Dieu pour le zèle de ses frères, de ce frère Tite en particulier, qui va accepter cette mission, et puis donc de faire le tour des églises. Et ça ne se fait pas en 5 minutes non plus. Hein, à l'époque, on y va plutôt à pied qu'en voiture. Et donc, eh bien, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, toute cette équipe va faire le tour de ces églises pour collecter cet argent. Et ici, les questions du zèle que donne l'Évangile. Vous vous rappelez de cette parole de Jésus, « Le zèle de ta maison me dévore. »« Le zèle de ta maison me dévore. » Éphésiens 6, hein, c'est Paul qui parle dans les attributs du soldat romain. À un moment donné, il parle du zèle. Vous vous rappelez à quoi il l'associe ? Le zèle ? Les chaussures, effectivement. Hein, les chaussures. Il fait certainement le parallèle, Paul, avec un dieu, dans la mythologie grecque. Alors, il s'appelle Hermès. Les enfants, vous connaissez celui-là ? Et qu'est-ce qu'il avait à Hermès ? Vous vous souvenez un petit peu comment ? Vas-y. Oui, et des bottes, comment ? Oui, et des bottes symbolisées, des sandales avec des ailes. Voilà. À Hermès, c'était le messager des voyageurs. Et Paul dit bien que le zèle, désormais, de l'Évangile, hein, c'est comme des sandales donc à nos pieds et qui nous permettent eh bien, de partager cette bonne nouvelle avec zèle, avec reconnaissance. Nous sommes appelés à être des témoins. Là où nous sommes... Et que ce zèle encore ce matin nous anime. Hein, Romains 12 nous dit ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Hein, » Jacques 3, 14 nous parle aussi parfois d'un zèle amer et un esprit de dispute. Il dit, « Mais ça, ce zèle ne vient pas de Dieu. Hein, il est charnel. » En tout cas, bien, ce matin aussi, que Dieu soit remercié pour le zèle de l'Évangile. Ce matin, chacun d'entre nous, nous en avons bénéficié, et puis nous pouvons aussi en faire bénéficier aussi les autres, le zèle que donne l'Évangile de paix. Hein, dans un monde tourmenté, un monde là aussi parfois si cruel, eh bien, nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle avec zèle, avec reconnaissance. Et puis on termine par 2 Corinthiens 9,15, un dernier sujet de remerciement, il y en aurait d'autres, mais que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié ce matin. 2 Corinthiens 9,15 nous dit ceci. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Paul termine son exhortation, il est encore dans la collecte, il remercie, il dit que ceux qui donnent le fassent avec joie en fonction de leurs possibilités. Et puis il termine, donc il parle bien d'argent, là, de collecte. Mais il dit ceci, cette phrase, que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Comment vous comprenez cette dernière phrase ? Le don incomparable. C'est quoi ? Qui est ce don incomparable ? Dites-moi voir, à votre avis. Qui peut être ? Alors, littéralement, c'est le don ineffable. C'est-à-dire que notre langage, notre compréhension, eh bien, ne peut pas mesurer pleinement encore ici-bas l'expression et les conséquences de ce don. Voilà, ineffable, ça veut dire qu'on est bien en dessous de la réalité de ce qu'on parle, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on pressent. Qui est ce don incomparable ? Qui est ce don ? Est-ce que c'est un don, à votre avis, sonnant et trébuchant ? Est-ce que sonnant et trébuchant ou non pas trébuchant, hein ? Sonnant est, je ne sais plus comment on dit, mais est-ce que c'est un don, à votre avis, quelques milliers d'euros, de 7 terces ou de deniers ? Est-ce que c'est un don d'argent dont il est question, à votre avis, ici ? Vas-y, à ton avis ? Eh bien, c'est Jésus ! Eh bien, c'est Jésus, ce don incomparable, exactement ! Eh oui, c'est Jésus ! C'est pas une cagnotte, c'est pas l'euro million ou je sais pas quoi, mais il est question, le don incomparable, ça veut dire le don qu'on ne peut pas comparer. Le don incomparable, eh bien, c'est Jésus. Il est à la source ce matin, il est à l'origine de tous les autres dons, de tous les autres dons. Il est à la source du don de notre vie, de notre temps, de nos capacités, de nos talents, de notre argent, de... Tout cela, eh bien, Jésus, et quand on l'a reçu dans nos vies, eh bien, le reste va découler. Et ce matin, c'est la plus belle des conclusions. Hein, on peut dire que Dieu soit remercié pour le don ineffable, pour le don incomparable. C'est le don de Jésus. Amen. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus. Et c'est le sens ce matin de la Sainte-Seine. Ce matin, en prenant la Sainte-Seine, eh bien, on veut dire merci pour Jésus. Que Dieu soit remercié pour la vie éternelle. Que Dieu soit remercié pour le retour de Jésus. Que Dieu soit remercié pour le zèle de l'Évangile. Que Dieu soit remercié pour Jésus. Mais qu'il soit remercié, c'est le sens de la Sainte Cène ce matin. Eh bien, que Dieu soit honoré au milieu de nous. Amen. Amen. Alors, on va prendre quelques instants ce matin encore pour bénir le Seigneur. Et peut-être qu'on pourrait, nous qui sommes baptisés par immersion, qui un jour avons reconnu Jésus comme notre Sauveur, on pourra se lever ce matin, si vous voulez, pour faciliter le moment de Sainte-Cène. J'invite à vous lever. Et puis, simplement, cette belle parole de Jésus dans Luc 6, verset 37, nous dit ceci, « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, on vous donnera, et on versera dans le pan de son vêtement, de votre vêtement, une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Amen. Et en nous approchant ce matin de la Sainte Cène, en exprimant dans notre cœur cette reconnaissance que Dieu soit remercié, eh bien, nous partageons une certaine mesure de notre foi, la mesure de la reconnaissance, la mesure de la louange, la mesure de l'adoration. Alors, si je suis cette parole, eh bien, je vais être moi aussi mesuré avec cette mesure, et en retour, non pas pour avoir, mais en retour, là aussi, eh bien, le Seigneur saura me manifester sa bénédiction, son secours, sa grâce. Je pardonne, il me pardonne, etc. Alors, ce matin, approchons-nous de ce temps de Sainte-Cène avec cette reconnaissance, avec cette louange. Amen. Peut-être que Serge et puis Christian pourraient venir sur le devant. Je vous invite, vous qui êtes baptisés par immersion, à vous lever pour participer au repas du Seigneur. On va le faire ensemble ce matin de tout notre cœur. Peut-être pourrait demander aussi à notre sœur Manette également de venir pour là aussi faciliter le service de Sainte-Cène. Voilà, qu'un frère ou une sœur puisse remercier le Seigneur. Donc je vous rappelle, on a repris ce temps de Sainte-Cène donc sous la forme du pain et du vin. Donc le pain va vous être présenté dans un gobelet. Voilà, donc vous pourrez prendre ce gobelet, prendre le pain. Ensuite, le vin va vous être présenté aussi d'une manière classique. Le vin, il y aura aussi du jus de raisin qui est sur... marqué par des lignes brunâtres. Vous gardez vos deux gobelets et ensuite une troisième personne passera donc pour mettre ces deux gobelets dans le dernier récipient. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un spontanément qui voudrait rendre grâce au Seigneur? Et puis ce matin, bien, que Dieu soit remercié. Voilà, c'est le sens de ce moment, que Dieu soit remercié. Amen.